Tout de suite, la revue de presse, Claude Askolovitch.
Et Claude, on parle de la limite ce matin.
Et c'est de la philosophie. La limite, la frontière, l'interdit pour nous garder de l'infini des possibles qui donne le vertige. Et ce matin, le Figaro met le pied sur le frein en faisant converger dans une belle interview deux agrégés de philosophie qui normalement se seraient opposés. Jean-Claude Michéa est marxiste. Pierre Manon est d'une droite catholique et libérale bon teint. Mais tous les deux se retrouvent contre la modernité et rivalisent de mots alors pour fustiger la mondialisation. Libérale, qui n'est pas le libéralisme, dirait Manon, il fustige l'imaginaire de la croissance illimitée, ce charme maléfique qui emporte l'Occident. Il s'insurge aussi contre l'idéologie des droits de l'homme, l'idée d'individus tout-puissants dont les droits et l'empire sur la nature seraient illimités. Et tous les deux, les philosophes, prônent une limite. Michéa, au nom de la gauche d'avant le libéralisme, Manon, au nom de la loi naturelle. Est-ce la même chose? Il faut donc lire ce champ à deux voix pour appréhender une idéologie. Conservatisme, réaction, qu'importe quand un philosophe de droite et un philosophe marxiste sont interrogés comme des maîtres par une journaliste de moins de 30 ans, Eugénie Bastier, une parmi d'autres dans une jeune garde qui fait du Figaro parfois un organe de combat contre son époque. Mais attention, ce combat sera rude, car sur le site internet du même Figaro, je vois un quadragénaire hilar et milliardaire au t-shirt orné d'une tête de mort, signé Jean-Michel Basquiat, juché sur les épaules d'un autre quadra milliardaire au t-shirt modestement noir. Elon Musk qui porte fabrique des fusées et va envoyer autour de la Lune Yusaku Maezawa qui lui vend de la mode en ligne sur internet. Ont-ils lu Manon et Michéa, ces deux grands enfants sans limite? Voyez-vous, on ressent ce matin en lisant le besoin de cadre, de lenteur peut-être et de limite. Le Parisien, Libération, L'Opinion, Le Canard Enchaîné anticipent la rencontre entre un homme pour qui tout allait si vite, Alexandre Benalla, qui trouve sa limite dans le Sénat, cette vieille maison qui va l'interroger. L'Équipe acte la défaite du riche et pressé Paris Saint-Germain à Liverpool, cette institution, par ce titre digne de Manon, la route sera longue. Sud-Ouest et L'Humanité évoquent un homme qui vient de mourir à 86 ans, Paul Virilio, urbaniste et philosophe, un visionnaire de l'humanité qui étudiait les catastrophes jumelles du progrès et qui se méfiait de la vitesse de nos économies globalisées, une vitesse que le cerveau humain ne pouvait plus suivre. L'Express, intelligemment, a remis en ligne un texte de Virilio du siècle dernier, 1999, et ce sont nos débats d'aujourd'hui, car il avertissait Virilio contre la science, contre la génétique et contre Internet dont l'Empire se dressait, vouloir tout voir et tout savoir sur chacun d'entre nous, c'est une police des images. Nous y sommes. Et Virilio nous conseillait ceci. Garde-toi des idoles, marche, danse, écris et lis, mais surtout garde la parole. Notez ceci, dans sa disparition, cet homme a une grâce. Il est décédé le 10 septembre, mais nous ne l'avons appris que hier. 8 jours de grâce arrachés à l'immédiat qui nous en sert.
On parle aussi, Claude, de la disparition de Marceline Loridan.
Qui marchait et dansait justement Marceline Loridan-Ivens et écrivait, et lisait et gardait la parole, mais qui en même temps était elle sans limite parce qu'il s'agissait de vivre. Et cette femme avait appris ceci à Auschwitz-Birkenau et à Bergen-Belsen. Il ne faut pas s'arrêter de courir, l'enfer est derrière soi. Et je lis cela dans un article du Monde paru en janvier dernier, car comme souvent, il faut aller plus loin que la nécrologie immédiate et cliquer dans les archives, par exemple celle du Monde qui en 2005 la baptisait Marceline la Tornade, une petite femme aux cheveux flamboyants qui avait épousé la Révolution et un grand documentariste hollandais, Joris Ivens, avec qui elle plongeait dans la Chine de Mao. Juive, rouquine et gauchère, j'avais tous les attributs pour devenir bêtement gauchiste, disait-elle. Elle était sans limite et c'était une survie. Vanity Fair, au printemps dernier, le portrait est en ligne, l'avait montré mangeant des space cakes fourrés au cannabis avec des jeunes gens époustouflés de sa vitalité. Elle se souvenait, c'était dans Le Monde en janvier dernier, Marceline, de la beauté des femmes à Auschwitz, la beauté de leur corps. Et parmi ces femmes, la plus belle, Simone Veil, qui resterait son amie après, qui serait plus bourgeoise qu'elle, mais qu'elle amenait par provocation dans la fournaise gauchiste de la Cinémathèque avec son collier de perles. Simone, les camps n'avaient pas quitté Marceline Loridan ni ce retour qu'elle avait raconté au Monde en 2005. Après la libération, elle avait voyagé avec des malades du typhus. Pendant 10 jours, on a voyagé avec 25 cadavres qu'on empilait pour avoir plus de place. Le monde poursuivait. Elle s'interrompt, sourit. Vous voyez, il y a toujours un moment où il faut s'arrêter. Il y a une limite à ce qu'on peut raconter. Une limite encore. Marceline Loridan, Libération le souligne, dont le retour de l'antisémitisme avait été le dernier combat, est morte le soir de Kippour, le jour du grand pardon dans le judaïsme.
On termine avec un monstre.
Un monstre d'imagination venu, croyait-on, cet été dévorer nos enfants et les pousser au suicide dans des défis macabres lancés sur des messageries internet. Le Momo Challenge, représenté par la tête d'une femme au rictus d'outre-tombe, n'était qu'en fait la photo d'une statue japonaise et la blague de quelques joyeux internautes sud-américains à laquelle tout le monde a cru à tort. Ce sont les monstres que les adultes fabriquent par leur peur. Les enfants sont plus simples. Et j'en termine. Je lis ce matin dans Nord Littoral que des écoliers à Blériot-Plage sont allés faire bénir leur cartable dans une église. Et je trouve d'autres cérémonies de ce type dans d'autres journaux régionaux. Et la vie s'interroge. Est-ce une superstition? Non, c'est le retour d'une spiritualité domestique, comme avant.
Merci Claude Askolovitch.